Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Paul parle en cette fin de lettre aux Éphésiens de la marche et du service du croyant, et plus spécifiquement ici des dons que Dieu peut donner et surtout leur but. Et chacun de ces dons vont avoir un but principal qui vont être l'édification de l'Église. L'édification du corps de Christ. Cette édification, cette construction, nous sommes tous appelés à y participer. Tous appelés à y ajouter notre touche. Et si on compare souvent l'Église à un corps, comme ici dans ce texte, l'Église est également comparée à une famille. Et une famille est un corps qui doit rester uni. Et nous parlons souvent de la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, elle est belle. Amen. Et nous aimons la famille de Dieu. Nous aimons nos frères. Nous aimons nos sœurs. Nous aimons nos jeunes. Nous aimons nos anciens. Nous aimons les entre-deux-âges. Nous aimons tous, même si nous sommes différents. Et nos différences font la richesse de l'Église. Nos différences nous amènent à vivre des choses que de nous-mêmes nous ne vivrions pas. Que les talents de chacun nous permettent de voir des choses que de nos propres talents nous ne pourrions pas faire. Et Dieu a placé en chacun de nous des dons, des capacités, des caractères différents. Nos caractères sont différents, eh oui. Et parfois, certains caractères sont plus difficiles que d'autres. Mais pourtant, c'est la richesse du corps du Christ. C'est la richesse de l'Église. Et nous devons aimer cette richesse. Nous devons aimer cette diversité. Lorsque nous sommes mariés avec mon épouse, nous avons quitté nos familles, nous étions loin de nos familles. Et notre famille, c'est devenu l'Église. L'Église est devenue notre famille. Et nous avons trouvé en l'Église une famille. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux. C'est qu'on peut aller n'importe où dans le monde, on trouvera toujours notre famille. Amen. On peut aller au fin fond de la montagne, à Gap, on trouvera une famille. Amen. On peut aller dans un autre pays, on peut aller à la Seyne-sur-Mer, on peut aller à Pertuis, on peut aller n'importe où. Voilà, on trouvera toujours la famille de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui réjouit nos cœurs. C'est ça qui rassure nos cœurs. Et nous aimons vivre ces moments dans la famille. Mais le diable, lui, a un but, c'est de détruire les familles. Et si cela est vrai pour les familles humaines, et le terrain de chasse favori du diable, ça va être les familles. On le voit par tout ce qui est fait, on le voit même par les lois, on le voit par tout ce qui est mis en place au fur et à mesure que il y a un seul but dans le cœur du diable, c'est de détruire les familles. Aujourd'hui, le divorce, l'adultère, les tromperies, les séparations, tout cela, les familles recomposées qui se reséparent, etc. Tout cela anime notre société dans un seul but, faire du mal aux familles. Et si cela est vrai dans les familles humaines, le diable aussi veut apporter la zizanie, veut apporter la division, veut faire du mal à la famille de Dieu. Et nous devons, de tout notre cœur, garder, préserver, protéger cette famille qui est la nôtre. Famille humaine, mais également famille de Dieu. La famille est au cœur de notre société, la famille est au cœur de toutes choses. Et je réfléchissais un petit peu, mais lorsqu'on regarde toutes les séries télévisées, n'avez-vous pas remarqué que pratiquement à chaque fois, au centre, il est question d'une famille. Des plus anciennes séries, Dallas, La petite maison dans la prairie, voilà, toutes ces séries-là, jusqu'aux plus récentes, toutes les séries télévisées, ou au moins une grande majorité, parlent de la famille. Alors, on idéalise la famille au travers de ces séries. Certains même viennent à s'identifier à certains personnages fictifs. Mais nous devons nous identifier à des choses bien réelles. Il y a des exemples bien concrets, bien réels, que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et il y a, dans la parole de Dieu, un exemple de famille, un peu particulière, sur laquelle j'aimerais m'arrêter ce matin. Une famille qui est appelée également à être un corps uni, assemblé, solidaire, et qui s'attache l'un à l'autre. Et de la même manière, notre famille, qu'elle soit humaine, mais également notre famille de Dieu, la famille que nous représentons, l'Église que nous sommes, ce corps doit demeurer uni, solidaire, et à se soutenir les uns les autres, à s'aimer les uns les autres, malgré nos différences. Il y a cette famille que l'on trouve à Béthanie. Cette famille, pas comme les autres, c'est une fratrie. Deux sœurs et un frère, Marthe, Marie et Lazare. L'une des premières choses qui est intéressante dans cette famille, c'est qu'il n'y a pas de parents. On ne trouve pas de parents, on ne trouve pas d'enfants, on ne trouve pas de mari, d'épouse. Voilà, et cela nous fait penser à la famille de Dieu qui est composée de frères et de sœurs. Et dans cette famille, il y a cette famille composée de trois, d'une fratrie de trois. On ne sait même pas qui est l'aîné, on ne sait même pas qui a vraiment l'autorité, même si à l'époque, bien sûr, en Orient, l'homme, le frère, avait la responsabilité, la charge de la famille, s'il n'y avait pas le père. Et voilà, mais on voit que malgré tout, Marthe, par son caractère, prend des décisions, c'est dans sa maison qu'ils se réunissent. Voilà, il y a bien des choses qui nous amènent à penser qu'une fois que c'est un tel qui est responsable, une autre fois que c'est certainement un autre qui est responsable. Mais voilà, on ne sait pas trop. Chacun, au final, est au même niveau. Chacun, au final, a la même importance. Et cela nous rappelle également que dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie. Dans l'Église, aux yeux de Dieu, il n'y a pas quelqu'un plus haut ou plus bas que l'autre. Nous sommes tous vus au même niveau pour Jésus. Et nous sommes tous vus de la même manière, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et si certains ce matin pourraient dire « Mais moi, je ne fais rien, moi je suis dans mon coin, moi on ne s'occupe pas de moi », voilà, prenez le temps de considérer que Jésus vous aime comme une perle de grand prix. Que Jésus porte pour chacune de votre vie une très grande importance. Et tous, pour tous, de la même manière. Nous sommes tous, et nous avons tous, un rôle à jouer dans l'Église, dans la famille de Dieu. Et cela nous rappelle ce que Paul pourra dire aux Corinthiens. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ce n'est pas un des membres, un de nous qui est la tête, puisqu'il dira plus loin aux Colossiens que Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Celui qui doit être en premier, c'est Jésus. Amen. Celui qui doit avoir la primeur, c'est le Seigneur. C'est pas un homme, même malgré ses capacités, malgré son éloquence, malgré ses facilités, malgré la place peut-être qu'il a humainement. Mais aux yeux de Dieu, nous faisons tous partie du corps de Christ. Et la tête, c'est Jésus uniquement. Il y a dans l'Église des mains, des pieds, non pour faire n'importe quoi, mais pour le service de Dieu. Il y a dans l'Église des bouches, non pour apporter de mauvaises paroles, mais pour parler de ce que Dieu fait, pour savoir encourager, exhorter, édifier. Il doit y avoir également des oreilles, non pour écouter tout vent de doctrine comme nous l'avons lu, ou ce qui est mauvais venant des hommes, mais pour écouter la voix de Dieu. Et dans la famille que nous sommes, nous ne devons pas seulement également nous cantonner qu'à un rôle de main si nous sommes un serviteur, mais nous devons également avoir ce désir de parler de ce que Dieu fait, avoir ce désir également d'être des oreilles et d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre famille humaine, mais également dans l'Église, nous devons être de ceux qui servent, être de ceux qui sont des témoins, et être de ceux qui sachent écouter, qui sachent parler de la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde le contexte de cette famille de Béthanie, de cette fratrie, on voit que cette famille apparaît dans la dernière année du ministère, dans la dernière année de la vie de Jésus sur terre. Et si la première année est la période du commencement, l'année du commencement, si la seconde année est l'année de la popularité, la troisième année de son ministère est l'année de l'opposition. Et Jésus va trouver dans cette période d'opposition un soutien dans cette famille. Et dans notre période, dans notre société, où il y a une grande opposition à la parole de Dieu, où il y a un grand rejet de la foi en Jésus, nous devons être un soutien. Nous devons être de ceux qui vont être des canaux de bénédiction, justement. Nous devons être ceux qui vont briller dans la nuit. Nous devons être ces témoins fidèles de ce que Jésus accomplit encore aujourd'hui, en 2016. Amen. Le Seigneur Jésus a accompli des choses extraordinaires dans nos cœurs, dans nos vies par le passé. Mais n'agit-il pas encore aujourd'hui? Alléluia. Et nous devons témoigner de cela et être les preuves vivantes que Jésus agit et qu'il est vivant encore aujourd'hui. Amen. Alors, dans cette dernière année difficile et surtout dans ces derniers jours, Jésus va trouver un soutien, va trouver refuge, va trouver le repos dans cette famille, dans cette maison. Et il va savoir prendre du temps avec eux. Il va prendre du temps pour être avec eux, pour les enseigner, mais également pour se ressourcer. Marthe nous montre l'importance du service. Lazare, lui, est le témoin de l'œuvre de Jésus. Et Marie est celle qui va maintenir une grande proximité avec Jésus, une grande communion. Elle est celle qui saura écouter et qui saura prier le Seigneur Jésus. Voilà ce que nous devons retrouver dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, des serviteurs, des témoins et des hommes et des femmes promptes à écouter la parole de Dieu, à écouter la voix de Dieu et à prier le Seigneur. La première fois qu'il nous est parlé de cette famille, on le voit dans l'évangile de Luc, on peut le lire peut-être rapidement. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Marthe. Et dans ce passage, voilà, il ressort surtout le service de Marthe, le caractère de Marthe. On voit, c'est vrai, sa consécration dans le service, on voit son désir de servir et voilà, elle s'affaire à tous les soins domestiques, elle court à droite, à gauche pour que tout soit le plus parfait possible. Lorsqu'on invite quelqu'un à la maison, voilà, ma femme, elle me dit souvent, moi je participe jamais à rien quand il y a du monde à la maison. Je suis à la cuisine, je suis à faire ci, à faire ça. Alors je dis, ben, merci Marthe. Mais, béni soit le Seigneur. Hein. Mais c'est vrai, et on s'affaire, on veut que tout soit le mieux possible pour nos invités, on veut que tout soit parfait, on veut que, voilà, que nos invités soient dans les meilleures conditions, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent bien accueillis, on veut exercer l'hospitalité de la meilleure des manières. Et voilà, et il y a cette femme, Marthe, qui est là, et qui s'agite, qui va de droite, de gauche, qui apporte les plats, qui nettoie certainement ce qui est tombé, la moindre saleté, voilà, tout doit être parfait, etc. Et on peut vraiment soulever cette consécration, ce caractère que Marthe a et son cœur à servir et à se dévouer dans le service. Et je crois également qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être dévoués dans le service. Nous devons savoir consacrer nos vies pour le service, pour Dieu. Passer du temps à, peut-être c'est vrai, peut-être nettoyer. Passer du temps même peut-être à faire des choses que l'on ne voit pas, mais des choses que Dieu voit. Et la parole de Dieu nous rappelle que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera des plus grandes. Alors certains, parfois on entend, mais moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, voilà, moi j'ai une vision, j'ai un projet, oui c'est bien, laisse le Seigneur éprouver ce projet, mais peut-être dans toutes les petites choses qui sont là, mets-toi à l'œuvre. Et comme pourra dire l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tu as des capacités, alors fais-les valoir. Lorsque Jésus enseignera avec cette parabole des talents, lorsqu'il reviendra vers ses serviteurs et qu'il trouvera ceux qui auront fait valoir les talents, il leur dira quoi ? Il leur dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Que lorsque le Seigneur, lorsqu'il nous rappellera, que nous puissions entendre de sa bouche, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre maintenant dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Nous sommes appelés à être des serviteurs, mais pas être seulement que des serviteurs, mais à être des bons et fidèles serviteurs. Ne pas faire pour faire. Ne pas accomplir des tâches parce qu'on nous le demande et avoir un cœur qui est contre ce désir de servir. Et c'est justement ce que Jésus va reprocher à Marthe au final. Marthe s'affaire à bien des choses. Et elle est là et elle dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne m'aide pas, que ma sœur ne serve pas? Parce qu'elle, a priori, ça lui fait quelque chose, hein. Jésus, ça n'a pas l'air de l'agacer, mais elle, ça a l'air de l'agacer. Alors, elle va se permettre d'aller vers Jésus en lui disant, mais Jésus, ne vois-tu pas qu'elle ne fait rien? Ne pourrais-tu pas lui dire de venir m'aider, de venir me donner un coup de main? Parce qu'il y a du travail. Mais on ne peut pas forcer les gens non plus à travailler. Ça doit venir de notre propre cœur. Et servir à contre-cœur, quelle valeur cela va-t-il avoir? Nous devons être de bons et fidèles serviteur, fidèle dans les plus petites choses, fidèle dans notre engagement, et fidèle et bon à faire les choses bien, à faire les choses du mieux possible, à placer le plus de temps possible, à mettre peut-être du temps à part encore plus pour être plus efficace pour l'œuvre de Dieu. C'est bien de servir Dieu, mais peut-être que on doit faire plus encore. Peut-être qu'on est appelé à faire autre chose. Peut-être qu'on est appelé à faire quelque chose de plus important. Et si cela résonne dans nos cœurs, nous ne devons pas l'enfouir, mais au contraire, nous devons nous engager pleinement de tout notre cœur, de tout notre cœur. Marthe, elle, s'engage de tout son cœur. Mais ça l'agace de voir sa sœur qui est là et qui reste assise à ne rien faire. Et peut-être que parfois également dans nos églises, dans nos familles, on trouve des personnes qui s'agacent parce qu'eux, ils font, et puis ils s'agacent et ils arrivent à faire les choses à contre-cœur parce que peut-être il n'y a peut-être pas assez de monde, parce que peut-être un tel ou une telle a arrêté. Alors on s'agace intérieurement. Mais Jésus dira à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. » Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôté. » Jésus répond à Marthe de manière très calme et l'amène à ne pas considérer ce que fait ou ne fait pas sa sœur Marie, mais plutôt à considérer ce qu'elle, elle fait et surtout comment elle le fait. Avec quelle disposition de cœur elle le fait. Et le Seigneur veut également nous amener à considérer, à ne pas considérer ceux qui sont autour de nous, mais à considérer notre propre vie, de ce que nous faisons ou ne faisons pas, et de la manière dont nous faisons les choses. Dans quelle disposition de cœur nous servons le Seigneur? Dans quelle disposition de cœur nous venons à l'Église? Jésus amène Marthe à la réflexion sur la seule chose qui est nécessaire. Et cette seule chose qui est nécessaire, c'est d'être tourné vers Jésus. D'avoir un cœur tourné vers Jésus, dans le service également. On retrouve cette pensée également lorsque ce jeune homme riche viendra auprès de Jésus qui lui demandera « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et alors que Jésus lui énumérera les quelques commandements, cet homme, ce jeune homme dira mais j'observe tout cela depuis ma jeunesse, que me manque-t-il? Et Jésus lui dira, il te manque encore une chose. Une chose encore est nécessaire. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et on sait malheureusement qu'il va repartir tout triste parce qu'il avait de grands biens et que son cœur n'était pas tourné uniquement vers Jésus. Son cœur était tourné vers ses biens, vers les choses matérielles, vers les choses humaines. Et Marthe, à ce moment-là également, n'avait pas un cœur uniquement tourné vers Jésus. Ce que Marie, elle, avait, c'est ça la bonne part qu'elle a choisie. C'est d'avoir un cœur tourné vers Jésus. De ne pas avoir un cœur seulement tourné vers le service, vers les choses à faire pour faire. Oui, on est appelé à servir, je le rappelle. Mais servons d'un bon cœur. Servons avec un cœur bien disposé. Quelle est notre priorité dans notre vie de croyant? Quelle est notre priorité au sein de cette famille que nous représentons? Est-ce que c'est juste pour venir à l'église? Ou est-ce que c'est juste pour accomplir une tâche, un service? Ou est-ce que c'est pour avoir un cœur tourné vers Dieu? Avoir un cœur qui s'attend au Seigneur Jésus. Voilà la bonne part que nous devons choisir. Cette bonne part qui ne nous sera pas ôtée, celle d'un cœur tourné vers Dieu. Dans une autre famille que l'on trouve dans l'Ancien Testament, on voit le roi David sur la fin de son règne, sur la fin de sa vie, qui va transmettre ses pouvoirs et qui va transmettre à son fils Salomon différentes instructions. Et qu'est-ce qu'il va lui dire David à Salomon? 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 et 10. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » En premier, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Oui, David appelle son fils Salomon à retrousser ses manches et à servir, à agir, à bâtir une maison qui serve de sanctuaire, selon les plans que Dieu avait donnés à David. Mais d'abord, David demande à son fils de connaître Dieu, d'avoir un cœur tourné vers Dieu, de s'attendre à Dieu, de comprendre qui est Dieu, et de comprendre quelle est notre vie au contraire, et que notre vie n'est rien devant la grandeur de Dieu, et que nous trouvons tout pleinement en Dieu. C'est ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous également. Connais Dieu d'abord. Connais Dieu dans ton cœur. Laisse-le se faire connaître à toi, mais toi d'abord également, cherche-le. Cherche-le de tout ton cœur. Et comme le dira David à son fils Salomon, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Alors parfois on se dit, mais je ne trouve pas Dieu. Oui, mais chercher Dieu avec un cœur qui n'est pas tourné vers Dieu, c'est difficile. Il faut un cœur tourné vers Dieu. Un désir de chercher Dieu, un désir de chercher la face de Dieu, de se dire peut-être dans ce moment de prière que j'ai dans ma chambre tout seul, je veux pas y passer ce moment, je veux pas quitter cette chambre jusqu'à ce que j'ai vu la face de Dieu, jusqu'à ce que j'ai ressenti sa présence. Je veux pas partir tant que Dieu ne m'ait parlé. Et on veut s'attendre à Dieu, on veut connaître Dieu, on veut chercher Dieu de tout notre cœur. Et après on pourra servir Dieu, après on pourra le servir avec un cœur dévoué. Et avec une âme bien disposée, avec une âme bien disposée. Et c'est parce qu'on connaîtra Dieu que nous pourrons servir de la bonne manière, parce que nous aurons choisi la bonne part de connaître Dieu. Alors notre service sera un sujet de réjouissance pour notre Dieu. Alléluia. Alors, fortifie-toi ce matin et agis. Fortifie-toi dans la connaissance de Dieu, fortifie-toi dans la présence de Dieu, fortifie-toi dans la parole de Dieu, fortifie-toi dans la communion avec le Seigneur et agis. Agis avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Et puis, si nous devons être investis dans le service avec un cœur dévoué, avec une âme bien disposée, nous devons également être des témoins de l'action du Seigneur dans nos vies. Être des témoins, c'est un commandement de Jésus. D'être des témoins, d'aller par tout le monde et d'être ces témoins là où Dieu nous place, de ce que et de dire et de montrer, d'expliquer ce que Dieu fait dans les vies encore aujourd'hui. N'y a-t-il pas eu avant nous des personnes qui ont été des témoins pour notre propre vie? Amen. Et nous bénissons Dieu de ces personnes que Dieu a placées sur nos routes à un moment donné, de ces personnes qui ont su nous encourager, de ces personnes qui ont su prier pour nous, de prier avec nous, de ces personnes qui ont su nous montrer que Dieu avait agi dans leur vie, que c'était possible qu'il agisse dans notre vie. Alors, on veut faire également la même chose, expliquer et dire que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies et qu'il veut le faire encore dans bien des vies. Cet homme, Lazare, sera un témoin de l'action de Jésus dans sa vie. Lorsqu'on lit le récit de Lazare, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 notamment, on voit que Lazare était malade d'abord. Et ses sœurs, Marthe et Marie, vont faire dire à Jésus, leur ami, et ils vont dire justement, « Cet homme que tu aimes, ton ami est malade. » Jésus va entendre cela, mais Jésus ne va pas se précipiter à aller à Béthanie. Jésus ne va pas se précipiter à aller vers Lazare pour le guérir. Au contraire, il dira « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Et j'aimerais vous dire ce matin que le moment que vous passez, l'épreuve que vous passez, le désert que vous traversez, la maladie que vous avez actuellement n'est pas pour la mort, n'est pas pour votre affliction et pour le désir de vous écraser, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'un aveugle sera là présenté à Jésus, les disciples pourront dire mais qui a péché, ses parents ou lui qui soit né aveugle? Et Jésus dira, ce n'est pas que ses parents ou lui aient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de sa vie. Et Dieu permet des moments difficiles dans nos vies pour que la gloire de Dieu soit manifestée et pour que nous puissions être des témoins vivants de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va permettre également pour Lazare. Lazare va mourir. Lazare va connaître la mort, certainement dans la souffrance, parce que lorsqu'on est malade et lorsqu'on meurt, on meurt d'une maladie quelconque, c'est certainement et très souvent dans des souffrances. Et Dieu va permettre les souffrances dans la vie de Lazare. Dieu permet également parfois les souffrances dans nos vies. Mais Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos propres forces. Et dans toute affliction, dans toute tentation, Dieu permet le moyen d'en sortir. Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Même si on a l'impression peut-être qu'on ne ressent pas sa présence, le Seigneur est là. Il n'a pas promis qu'on ressentirait toujours sa présence, mais il a promis qu'il serait tous les jours avec nous. Et nous devons nous raccrocher à cette promesse de ce que le Seigneur Jésus est là tous les jours avec nous. Alors Lazare va mourir et Jésus va être amené quand même à venir jusqu'à Béthanie et il va arriver, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Et Jésus va arriver et il va être fortement touché au plus profond de son cœur. Soyez sûrs que dans nos difficultés, dans nos épreuves, le Seigneur est touché dans son cœur également. Et il a compassion. Il est ému de compassion. Comme un père n'aime pas voir son enfant souffrir, Dieu, notre Père, ne se plaît pas à voir ses enfants souffrir. Mais comme un père sait que parfois le châtiment est nécessaire pour que l'enfant puisse comprendre, comme un père comprend que parfois également de vivre telle ou telle situation va lui être salutaire, bénéfique à l'enfant, Dieu également permet des moments difficiles pour que nous puissions être toujours tournés vers Dieu et pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Quand Marie va venir auprès de Jésus pour pleurer, nous est dit qu'il va être ému de compassion. Il va frémir en lui-même. Et lorsqu'il sera amené au tombeau, et lorsqu'il fera face au tombeau de Lazare, de son ami Lazare, celui qu'il aimait, il y a ce verset. Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus va manifester un sentiment tellement humain. Lui, le Fils de Dieu. Mais dans ses sentiments humains également qui l'animaient, cela nous montre qu'il est également parfaitement homme et qu'il nous comprend parfaitement et qu'il compatissait de la souffrance de Marie et de Marthe et qu'il pleurait avec celui et celle qui pleurait. Comme Paul peut nous le rappeler également de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Jésus est là et il va pleurer devant ce tombeau. Mais il ne va pas rester sur ce constat amer d'une mort d'un ami cher. Mais il va demander à ce qu'on puisse ôter la pierre de devant le tombeau. Connaissez ce passage? Et alors qu'il va prier, alors qu'il va rendre grâce, il va crier d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare va sortir. Alléluia! La mort n'a pas eu d'effet sur l'autorité de Jésus. Et dans chacune de nos épreuves, dans chacune des situations de notre vie, rien ne peut atteindre notre vie si Dieu ne permet pas. Rien ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Et rien ne peut nous anéantir si nous demeurons en Jésus. Alléluia! Nous devons avoir un cœur tourné vers Dieu et obéir à la voix de Dieu. Et lorsque la voix du Seigneur Jésus s'est fait entendre, Lazare s'est réveillé, Lazare est sorti de la mort, et Lazare est sorti du tombeau, alléluia. Et il a été le témoin de l'œuvre et de l'autorité de Jésus. Il a été ce témoin. Et lorsqu'on lit le chapitre qui suit, chapitre 12 de l'évangile de Jean, on voit, il est marqué, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts, là où on fit un souper. Marthe servait, on la retrouve à servir, mais ce coup-ci, il n'est pas dit qu'elle servait d'un mauvais cœur. Hein. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare était là, il était témoin, il était une preuve vivante de ce que Jésus l'avait ressuscité, de ce que Jésus était intervenu dans sa vie. Et Lazare n'est plus appelé Lazare de Béthanie, mais il est appelé Lazare, celui que Jésus a ressuscité. Il n'est plus vu de la même manière. Et dans nos vies également, nous qui devons être des témoins, nous ne devons plus être vus comme Étienne de Normandie, ou je sais pas quoi, hein. Mais Étienne, celui qui a été racheté par grâce, alléluia, et on peut mettre chacun de nos prénoms, celui qui a été guéri miraculeusement, celui qui a été délivré d'une possession démoniaque, celui qui a été délivré de passions humaines, des désirs de la chair, celui qui a été sauvé, alléluia. C'est cela qui doit être vu en nous. Et c'est comme cela qu'on doit nous appeler, parce que nous sommes des preuves vivantes, nous sommes des témoins vivants, amen. Il y a des témoins vivants ce matin. Amen. Et oui, Lazare était là et on l'identifie au miracle de Jésus et on doit nous identifier au miracle de Jésus dans nos vies. Et le plus grand des miracles, c'est celui d'avoir une vie nouvelle, celui d'avoir une vie transformée, celui d'avoir été racheté par grâce et de ne plus avoir de condamnation sur notre propre vie. Oui, de nous identifier à un enfant de Dieu, de nous identifier à celui qui a connu quelque chose de nouveau, celui ou celle qui a vécu un nouveau départ. Et cela montrera autour de nous que c'est aussi possible pour eux de vivre quelque chose de nouveau, de vivre une guérison, de vivre une vie nouvelle, de vivre une délivrance, de vivre le salut. Lazare était présent aux côtés de Jésus. Et de l'enseignement que Jésus pouvait apporter, Lazare en était le témoin. Et il venait confirmer que ce que Jésus disait, c'était la vérité. Et nous devons également être de ceux qui, par notre vie, apportent la preuve de ce que la parole de Dieu est la vérité. Et de ce qu'elle agit, de ce qu'elle est vivante, de ce qu'elle est efficace. Nous sommes des preuves vivantes, mes bien-aimés. Nous devons être des preuves vivantes, pas seulement d'une œuvre passée d'il y a 5, 10, 15, 20, 30 et plus encore quelques années, mais d'une œuvre qui est renouvelée chaque jour dans nos vies, d'une œuvre qui est efficace, d'une œuvre qui est permanente. Nous devons être ces témoins de la grâce du Seigneur, être des preuves de ce que la parole dit et la vérité. Et puis, il y a une chose qui m'a interpellé, peut-être que vous l'aviez vu déjà, mais en méditant, je m'en suis aperçu. Dans la vie de Lazare, sauf erreur de ma part, Lazare est le seul dans cette famille qui ne parle pas. Lazare est le seul dans ces passages qui ne parle jamais. Pourtant, on en parle souvent de Lazare. Pourtant, on parle souvent de Lazare et de l'œuvre que Jésus a opérée dans sa vie. Mais Lazare ne parle pas. Lazare est un témoin qui ne parle pas. Cela nous appelle et nous amène à penser et surtout à appliquer dans nos vies que ce ne seront pas par nos paroles que nous serons de bons témoins, mais c'est par notre vie. C'est parce que nous manifesterons dans nos vies que nous pourrons être de bons témoins. Lazare n'avait pas besoin de parler, il avait juste besoin d'être là présent. Lazare n'avait pas besoin de parler et de dire « j'ai été ressuscité », tout le monde le savait. Il avait juste besoin d'être là présent. Et le dimanche après-midi aussi, aux réunions d'évangélisation, on n'a pas besoin de parler, on a besoin d'être présent. Eh oui. Pour être des preuves vivantes, pour être ses témoins. Ce n'est pas par nos paroles qu'on va convaincre les gens, parce que le seul qui convaincra, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et on prie pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans les cœurs qui sont au bénéfice de la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de parler, juste besoin de vivre selon ce que Dieu nous appelle à vivre, selon les enseignements de la parole de Dieu. Le pharisien et le publicain qui montaient ensemble au temple. Ah, le pharisien, il pouvait faire de belles prières, mais il était là à porter des jugements contre ce pauvre publicain. Le publicain, lui, il ne faisait pas cas de ce qu'on le jugeait, il ne se révoltait pas, mais il prenait conscience que sa vie était une vie de péché et qu'il n'était qu'un pécheur et qu'il demandait pardon à Dieu. Et dans nos vies également, un peu comme Marthe qui regardait sa sœur, qui pointait du doigt sa sœur, ne regardons pas ceux qui sont autour de nous, mais regardons d'abord notre propre vie. Faisons le point sur notre propre vie et de laisser le Saint-Esprit nous amener à faire l'état des choses, un état des lieux de notre cœur et de savoir si nous sommes de bons témoins ou juste des témoins de façade, des témoins superficiels, de paroles, parce qu'on ne sera jamais une bonne preuve si on apporte de bonnes paroles, mais que notre vie n'est pas en conformité à ce que l'on dit. Mais ce qui aura le plus de crédit, ce qui apportera le plus de poids à notre témoignage, c'est notre vie. C'est notre vie. Lazare ne parle jamais. Et combien nous avons besoin également de mesurer nos paroles. Peu de paroles, mais des paroles pleines de grâce, des paroles pleines d'amour, des paroles pleines de bonté. Et puis je termine avec ce dernier passage où Marie va venir oindre les pieds de Jésus. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant sa mort, à l'aube de cette dernière semaine, Jésus trouve encore du refuge, du réconfort dans cette famille. Et alors que Marthe servait, qu'elle accomplissait de bon cœur ses tâches, alors que Lazare, lui, était le témoin de ce que Jésus avait accompli, Marie, elle, va montrer encore une fois qu'elle savait se tenir près de Jésus, qu'elle savait maintenir une communion avec le Seigneur, qu'elle savait maintenir une grande proximité avec Jésus. Parce que cette proximité avec Jésus, elle ne date pas que de ce moment-là. Mais lorsqu'on lit déjà dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 39, « Marie, écoutez sa parole !» Et parce qu'elle était tournée vers Jésus, cette part ne lui sera point ôtée. Dans Jean 11, lorsque son frère Lazare est mort et que Jésus arrive vers Marie, elle va s'adresser à Jésus et elle va le prier. Et là, à ce moment-là, elle va venir pour offrir à Jésus quelque chose qui avait une grande valeur, quelque chose qui n'avait pas de prix, un parfum de nard pur, d'un grand prix. Et elle va le répandre sur Jésus, elle va lui donner quelque chose qui a tellement de valeur. Alors il y a les disciples, et Judas notamment, qui va dire, mais nous pourrions tellement garder ce parfum et le vendre, le donner aux pauvres. Et puis la parole de Dieu nous dit que c'est pas parce qu'il avait compassion pour les pauvres, mais c'est parce que son cœur était attiré par l'argent. Mais Jésus dira, les pauvres vous les aurez toujours auprès de vous, mais moi vous ne m'avez que pour peu de temps. Et Marie avait pris conscience de cela et elle va vouloir garder une proximité avec Jésus, garder une communion, une union commune avec Jésus. Et ce que nous devons maintenir dans nos vies également en premier, c'est la communion avec le Seigneur. Dans l'écoute de la parole, dans la méditation de la parole, dans la prière et également dans ce sacrifice que nous devons offrir à Jésus. Écouter n'est pas qu'entendre. Entendre, c'est percevoir un son, mais écouter, c'est être attentif à ce qu'on entend. On doit écouter attentivement, être attentif à la parole de Dieu, à la voix de Dieu qui veut encore retentir dans nos cœurs. Et si cette parole, on veut l'entendre, on veut aussi, et Jacques nous appelle à la mettre en pratique, lorsqu'il dira « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et au verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alléluia ! Vous voulez être heureux dans votre vie ? Alors plongez vos regards dans la parole de Dieu. Eh oui ! Plongez vos regards, méditez-la et mettez-la en pratique, parce que le seul bonheur nous viendra que de la parole, le seul bonheur nous viendra que du Seigneur, le véritable bonheur sera d'avoir une communion, une proximité avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui fait notre bonheur. Et c'est pleinement conscient de ce que Dieu peut nous dire dans nos cœurs ou au travers de la parole de Dieu que nous pourrons prier selon sa volonté. Et parce qu'il aura parlé à nos cœurs. Et alors, nous pouvons nous rappeler de cette parole de Jésus, si vous priez, si vous vous accordez à demander quelque chose en mon nom, vous l'avez déjà reçu. Nous possédons déjà la chose que nous demandons. Et dans chacune de nos prières, alors on peut avoir cette assurance que Dieu va agir et que Dieu va nous bénir. Oui, écouter la parole, la mettre en pratique, prier Dieu et offrir nos vies en sacrifice. L'apôtre Paul pourra le dire aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est d'offrir notre vie au Seigneur. Ce qui est raisonnable, c'est pas seulement de verser un parfum, même si pour Marie c'était quelque chose qui avait tellement de valeur, mais ce qui a aux yeux de Dieu tellement de valeur, c'est notre vie. Ce qui a tellement de valeur aux yeux de Dieu, c'est notre temps, c'est nos pensées, c'est nos capacités qu'il nous a données, c'est de tout lui donner, de tout lui confier, de tout lui remettre. On chante parfois ce chant, « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon âme. Prends tout, Seigneur. Mais est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Est-ce qu'on est là vraiment prêt à tout donner pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à, faire ce sacrifice? Parce que parfois c'est un sacrifice, c'est vrai, de tout donner à Jésus. Mais quel sacrifice! Parce qu'il monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et si nous voulons être dans le plan de Dieu, si nous voulons faire sa joie, nous devons lui confier notre vie. Et combien nous avons fait l'expérience que lorsque nous lui confions tout, alors il y a tellement de bénédictions qui sont là dans nos vies, que Dieu déverse. Et lorsqu'on essaye de vivre notre vie par nous-mêmes, alors oui, on fait parfois les choses que l'on veut nous, mais combien nous allons de désillusion en désillusion. Le seul moyen de voir Dieu agir et d'être près de Dieu, c'est de lui offrir toute notre vie. Et puis, être proche de Dieu doit être toujours accompagné d'humilité. Toujours d'humilité. C'est ce que Marie manifestait. Dans l'évangile de Luc, nous est dit, Marie s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Jean 11, 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Jean 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La meilleure place pour notre vie, c'est aux pieds de Jésus. La meilleure place pour chacun de nous, c'est aux pieds de Jésus. Même si ce n'est pas humainement peut-être la meilleure place, la plus flatteuse, mais celle qui nous permettra d'être au plus près de Jésus. C'est à ses pieds. Ayons l'humilité dans nos cœurs. Soyons empreints d'humilité et sachons nous tenir aux pieds de Jésus. Alors, si nous voulons voir notre Église grandir, être édifiée, notre famille être construite de la bonne manière, c'est d'abord dans le service, c'est vrai, mais avec un cœur dévoué, avec une âme bien disposée. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Soyons toujours les témoins vivants de l'œuvre de Jésus et qu'au-delà de nos paroles, ce soit nos vies qui soient des témoins, ce soit nos actions, ce soit nos réactions qui soient en bon témoignage de l'œuvre de Dieu. Et gardons tous les jours une véritable proximité, une réelle proximité avec le Seigneur Jésus. Recherchons cela de tout notre cœur. Ne nous lassons pas de le chercher. Ne nous lassons pas d'être à son contact. Ne nous lassons pas de nous tenir à genoux, à ses pieds. Ne nous lassons pas d'écouter sa parole. Ne nous lassons pas de parler de ce que Jésus peut faire. Ne nous lassons pas d'expliquer à tous ceux qui nous entourent de ce que Jésus est vivant et de ce qu'il veut faire encore dans leur vie. Amen. Si nous voulons être une famille qui s'édifie, une famille unie et solidaire, je crois que c'est également au travers de l'exemple de Marthe, Marie et Lazare que nous devons grandir, prendre exemple pour que vraiment nous soyons également selon ce que Dieu nous appelle à être. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour à notre égard. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Tes bénédictions, tes miracles que tu veux encore manifester chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Seigneur, viens, Seigneur, nous amener à grandir en toi et que vraiment nous puissions toujours te servir d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Que vraiment, Seigneur, nous soyons toujours de bons et fidèles témoins, Seigneur, de ce que tu accomplis dans les vies, de ce que tu as fait dans nos cœurs et de ce que tu veux faire tous les jours. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te rechercher toujours, encore et toujours, tous les jours, à nous tenir près de toi, à entendre ta voix, à méditer ta parole, à te prier, à t'adorer, mais surtout aussi à t'offrir nos vies, Seigneur, tout entière, comme un sacrifice, et qui puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, mon Dieu, bénis, Seigneur, notre Église. Bénis-la, Seigneur, fais-la grandir en toi et que vraiment tes miracles encore puissent avoir pleinement liberté de se manifester, Jésus. Merci, Seigneur, pour la paix que tu veux mettre dans nos cœurs et pour cette assurance, Seigneur, que nous te verrons un jour face à face et que combien nous voulons entendre de ta bouche, c'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître et nous sommes déjà dans ta joie, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Amen.